Aviv et Marrakech, puis Casablanca, ses premiers vols réguliers entre Israël et le Maroc. À votre avis, le roi du rock'n'roll Elvis Presley avait-il des racines juives? Eh bien, la réponse est oui. Vous en saurez plus dans quelques instants. En Allemagne, la naturalisation est interdite aux personnes reconnues coupables d'un acte antisémite ou raciste. En Israël, les contrevenants à la quarantaine et à ceux qui ne respectent pas l'interdiction de voyager vers les pays rouges s'exposent à une nouvelle sanction, à savoir une interdiction de voyager à l'étranger durant un an. En France, à l'approche des 80 ans du massacre de Babi Yar, le Sénat français a accueilli le 21 juin une conférence pour raconter l'horreur de Babi Yar et ainsi compenser ce que certains, comme l'écrivain et témoin de la Shoah Marek Alter, considèrent être de graves lacunes dans le travail de mémoire en Ukraine. Konza, la Silicon Savannah du Kenya, collabore avec Israël sur un défi pour l'innovation. Je vous parlerai également d'une exposition virtuelle Yad Vashem, les 80 ans de l'opération Barbarossa. C'était le 21 juin 1943, l'arrestation du résistant Jean Moulin, donc en France. Et tout de suite, nous allons écouter un petit morceau de musique.
שאפשר, ועם כל זאת האם, אין אמצא אותך מחר. אדם קרוב אצל עצמו, אדם בתוך עצמו הוא גר. אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב אומר הוא, לפעמים הוא שר. לפעמים פותח דלת לקבל מכה. אבל ברור, אדם בתוך עצמו
d'écouter le chanteur israélien Shalom Chador. Alors, à partir du 25 juillet, la compagnie nationale israélienne El Al propose 3 vols par semaine entre sa base à Tel Aviv Ben Gurion et l'aéroport de Marrakech Menara, opéré en Boeing 737-900ER, pouvant accueillir 16 passagers en classe affaires et 159 en classe économie. Les départs sont programmés mardi, jeudi et dimanche à 17h15 pour arriver à 21h25. Les vols retour quittant le Maroc à 22h45 pour se poser le lendemain à 6h20 avec une durée de vol moyenne de 5h50. À compter du 10 août, El Al opérera également 3 rotations hebdomadaires vers l'aéroport de Casablanca Mohamed V, un 737-900ER décollant de Tel Aviv mardi, jeudi et dimanche à 18h05 pour arriver à 22h10 et repartant à 23h35 pour atterrir le lendemain à 6h55, durée de vol moyenne de 5h40. El Al sera vers Marrakech en concurrence avec Israël, qui a reporté au même jour le lancement de sa propre ligne, Arkia, avant de rejoindre le 3 août. Pas de concurrence en revanche entre Tel Aviv et Casablanca. Royal Air Maroc, la RAM, envisage toujours de desservir l'aéroport israélien depuis Casablanca, voire Marrakech. Ces inaugurations interviennent 7 mois après la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et 6 après la signature d'un accord aérien. Nous estimons que la demande sera élevée et que des centaines de milliers de passagers en provenance d'Israël visiteront la destination dans le cadre de forfaits vacances ou de voyages organisés. C'est ce que déclarait début juin le vice-président du marketing d'Israël, M. Gil Stav. En effet, près d'un million d'Israéliens sont d'origine marocaine, le Maroc ayant la plus grande communauté juive de la région. Et selon le ministère marocain du tourisme, 200 000 touristes israéliens se rendront au Maroc durant la première année d'opération de lignes aériennes directes entre les deux pays. Ils sont hors crise sanitaire, en effet quelques 70 000 transitant en général par l'Europe. Et nous allons poursuivre en vous parlant d'un livre sur le syndrome de Jérusalem. Ce livre vient de paraître. En fait, de son expérience de correspondante pour le journal français Libération en Israël, la journaliste Alexandra Schwarzbrot a tiré une trilogie composée de 3 romans tout à fait étonnants. Le premier, dans Balagan, une enquête confronte Eli Bichara, inspecteur arabe israélien, et son commissaire marqué par le terrorisme. Le deuxième, Adieu Jérusalem, s'oriente vers la politique fiction. La peste noire s'abat sur la Mecque, déclenchant en cascade un embrasement de toute la région. Quant aux Lumières de Tel Aviv, elles poursuivent dans cette veine, imaginant le pays coupé en deux entre les ultra-orthodoxes soutenus par les Russes et les laïcs emmurés dans Tel Aviv. Une dystopie étonnante éclairée par des personnages plus vrais que nature, aussi multiples que les identités de cette région hors normes. Alors je vous en rappelle le titre, Balagan, Adieu Jérusalem et les Lumières de Tel Aviv par Alexandra Schwarzbrot. C'est publié en poche chez Rivage Noir.
Baruch ata Adonai.
Baruch ata Adonai.
Baruch abba Yerushalayim.
Baruch
ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Yeah. je t'aime. Jérusalem, here I am. Jérusalem, je t'aime.
C'était bien sûr Alpha Blondie avec Jérusalem. Alors maintenant, je voudrais vous parler des racines juives d'Elvis Presley. Oui, le roi du rock'n'roll avait des racines juives. Alors, la grande caisse est restée non ouverte dans un entrepôt de 20 000 pieds carrés ici pendant plus de 4 décennies, dissimulant un fait peu connu sur l'une des icônes culturelles américaines. À l'intérieur se trouvait la pierre tombale de la mère d'Elvis Presley, Gladys, qui avait été placée dans les archives de Graceland avec 1,5 million d'autres objets depuis 1977. Et sur le côté supérieur gauche du marqueur longtemps invisible, conçu par Elvis lui-même, se trouve une étoile de David. La pierre tombale, qui n'a été retirée du stockage qu'en 2018, est maintenant exposée dans le vaste complexe de Memphis, où Elvis a vécu de 1957 jusqu'à sa mort prématurée 20 ans plus tard, à l'âge de 42 ans. Elle se trouve dans le jardin de méditation de Graceland, juste à l'extérieur du manoir et à quelques mètres de la propre tombe d'Elvis. Les histoires de l'héritage juif d'Elvis Presley circulent en fait depuis longtemps, mais lorsqu'il s'agit d'une légende comme Presley, dont la mort n'est même pas considérée comme un fait établi dans certains milieux, il n'est pas toujours facile de séparer la réalité de la fiction. Alors avec la pierre tombale, maintenant exposée au public, et un panneau d'accompagnement proclamant l'héritage juif de Gladys, tous les doutes persistants peuvent enfin être effacés. Il y avait beaucoup de mystères qui l'entouraient, a déclaré Angie Marchese, vice-présidente des archives et des expositions de Graceland, et celle qui a eu l'idée en fait de dévoiler la pierre tombale de Gladys à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort, en partie pour dissiper les doutes sur la lignée juive d'Elvis. La star est dessus, donc ça a répondu à beaucoup de questions qui étaient là. La pierre tombale de Gladys Presley, maintenant exposée à Graceland, elle a été conçue par son célèbre fils pour honorer l'héritage juif de la famille. Madame Marchese a dit que l'arrière-arrière-grand-mère maternelle d'Elvis Presley était une femme juive nommée Nancy Bourdine. On sait peu de choses sur Bourdine, mais on pense que sa famille a immigré en Amérique de ce qui est maintenant la Lituanie à l'époque de la Révolution américaine. Selon Ancestry.com, Madame Bourdine est née dans le Mississippi en 1826 et est décédée en 1887. L'arrière-petite-fille de Madame Bourdine était donc Gladys Love Smith, qui a épousé Vernon Presley en 1933. 2 ans plus tard, Gladys a donné naissance à Elvis Presley à Tupelo dans le Mississippi et la famille a déménagé à Memphis quand Elvis avait 13 ans. Les Presley vivaient autrefois dans un appartement juste en dessous de la famille du rabbin Alfred Fruchter, le premier directeur de l'Académie hébraïque de Memphis. Le fils du rabbin Harold, qui vit maintenant dans le Maryland, a déclaré qu'Elvis était en fait le Shabbat Goy des Fruchter, un non-juif qui effectue des tâches ménagères pour les juifs pratiquants, qui sont normalement interdits le jour du Shabbat juif. Donc, Fruchter a déclaré que ses parents n'avaient même jamais eu la moindre idée qu'Elvis aurait pu avoir des racines juives. S'il l'avait fait, il n'aurait jamais envisagé de lui demander d'être un Shabbos Goy, a déclaré Fruchter. Elvis était particulièrement proche de sa mère, décédée d'une insuffisance cardiaque en 1958 à l'âge de 46 ans. Au départ, Elvis la fit enterrer dans un cimetière public de Memphis et sa pierre tombale était marquée d'une croix. Mais Madame Marchese dit que 6 ans plus tard, Elvis a remplacé la pierre tombale par une autre conçue selon ses spécifications. Le nouveau marqueur comportait bien une étoile de David d'un côté et une croix de l'autre, avec les mots « Sunshine of our home » gravés entre les deux. Qu'est-ce qui a poussé Elvis à inclure l'étoile de David sur la pierre tombale de sa mère? Madame Marchese n'est pas tout à fait sûre, ou même quand Elvis a appris l'héritage juif de sa mère, mais elle dit que la foi juive l'a réconforté lorsqu'il cherchait des réponses pour l'aider à faire face à son décès. À la suite d'une tentative de vol du corps d'Elvis Presley dans un cimetière de Memphis, Vernon Presley, le père, a fait déménager les restes de son fils et de sa femme à Graceland pour des raisons de sécurité. La pierre tombale de Gladys avec la fameuse étoile de David a été entreposée et elle est restée jusqu'à ce que Madame Marchese suggère qu'elle soit exposée en public. Nous avons pensé que ce serait un excellent moyen d'honorer son héritage juif, ainsi que l'honorer, a déclaré Madame Marchese, qui a travaillé à Graceland pendant 32 ans, est un des plus grands experts mondiaux de la famille Presley. Nous pensons que c'est ce qu'Elvis aurait voulu. Il existe des preuves que la lignée juive d'Elvis signifiait plus pour lui qu'un simple symbole sur une pierre tombale. Il a d'ailleurs généreusement donné au fil des ans à diverses organisations juives, dont le Memphis Jewish Community Center, un don honoré par une plaque qui est accrochée à Graceland aujourd'hui. La bibliothèque personnelle d'Elvis comprenait d'ailleurs plusieurs livres sur le judaïsme et l'histoire juive. Un livre entier sur le sujet « Le monde juif » d'Elvis Presley a été publié l'an dernier. Au cours des dernières années de sa vie, Elvis a souvent été photographié portant des colliers avec l'étoile de David et le mot en hébreu « Chai » qui signifie « vie ». Le collier « Chai » est conservé dans une armoire à Graceland à côté des clés de la célèbre Cadillac Rose de 1955 du chanteur. Elvis a fait concevoir le collier avec 17 diamants. Il a acheté les bijoux en 1976, un an avant sa mort. Et il faisait souvent une blague, je ne veux pas être exclu du paradis sur un détail technique. Alors il portait une étoile de David, un chai et il portait aussi une croix. Il voulait garder toutes ses bases ouvertes. Malgré l'héritage de Gladys, Presley a été élevé dans l'église Assembly of God, mais il a exploré d'autres religions en vieillissant et a commencé à lutter contre des problèmes physiques et mentaux. Il cherchait toujours des réponses pour savoir pourquoi il avait été choisi pour être ce qu'il était. Je pense qu'il a trouvé certaines de ses réponses à travers différentes religions. Il a été suggéré d'ailleurs que les gestionnaires d'Elvis Presley ne voulaient pas que son héritage juif soit connu du public, craignant que cela n'incite certains de ses fans du Sud à l'abandonner. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Ce n'était pas quelque chose qu'il craignait. Il fut d'ailleurs photographié avec ce collier et il fit don au centre communautaire juif tout au long de sa vie. Alors je vous propose d'écouter les mères juives. Une très très belle chanson de Georges Moustaki.
Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. Je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères juives. Je t'ai acheté 2 cravates, tu as mis la bleue avec tes pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères vives, dans ce manteau que j'ai fait pour toi. Tu serais avocat ou docteur, tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, l'énergie. Ta femme, c'est presque une gamine. Comment peut-elle veiller sur toi? Elle sait même pas faire la cuisine. Heureusement que je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, les mères. Tandis que moi, je te connais, je fais les plats que tu préfères, je te tricote des cache-nez, des paires de gants, des pull-overs. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères. Viens mon chéri, viens mon gamin, ne crains rien, je ne pleure pas, même quand tu ne m'appelles pas. Je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont très tendres et naïves, l'énergie. Quand ma petite mère parlait ainsi, ça me semblait insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive.
Georges Moustaki avec les mères juives. Sachez que l'Allemagne va faciliter la naturalisation des descendants de victimes du nazisme. La loi interdira également l'accès à la nationalité à toute personne reconnue coupable d'un acte antisémite ou raciste. L'Allemagne a approuvé vendredi une loi permettant de naturaliser les descendants de victimes du nazisme qui avaient dû fuir le pays en raison des persécutions, une étape symbolique vers la réparation des injustices passées selon les autorités. Et dans le même temps, la loi sur la citoyenneté a été modifiée pour interdire la naturalisation de toute personne reconnue coupable d'un acte antisémite ou raciste. Il ne s'agit pas seulement de redresser la situation, il s'agit de s'excuser dans une honte profonde. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, M. Horst Seehofer, lorsque le gouvernement a adopté le projet de loi en mars dernier. C'est une énorme chance pour notre pays si des personnes veulent devenir allemandes, alors que nous avons tout pris à leurs ancêtres, a-t-il ajouté. Tandis que l'Allemagne a longtemps autorisé les descendants de juifs persécutés à réclamer la citoyenneté, l'absence de cadre juridique empêchait de nombreux candidats de faire aboutir leurs demandes. Les personnes intéressées devront désormais présenter la preuve que leurs ancêtres ont été persécutés en Allemagne entre 1933 et 1945, ou qu'ils appartenaient à un groupe persécuté, notamment les Juifs et les Roms, ainsi que les dissidents politiques et les malades mentaux. Le Conseil central des Juifs d'Allemagne, qui a longtemps fait campagne pour un droit statutaire, a qualifié la mesure d'assouplissement des droits de citoyenneté de longtemps attendue Et dans le même temps, l'Allemagne assume la responsabilité de veiller à ce que les Juifs puissent vivre en sécurité dans ce pays, à saluer l'institution. Direction Israël à présent, où les contrevenants à la quarantaine et à ceux qui ne respectent pas l'interdiction de voyager vers les pays rouges s'exposent à une nouvelle sanction, à savoir une interdiction de voyager à l'étranger pendant 12 mois. Cette initiative a été prise par la ministre de l'Intérieur, Mme Ayelet Shaked. La ministre a l'intention de présenter son plan de lutte contre les contrevenants lors de la réunion du cabinet sur le coronavirus. Toute personne rentrée au pays et qui a violé la quarantaine, y compris les enfants, Madame Shaked propose non seulement d'imposer une amende de 7 700 shekels, mais aussi de les priver du droit de quitter Israël pendant un an. La même chose, à son avis, devrait être faite avec ceux qui sont partis pour un pays interdit sans l'autorisation d'une commission spéciale. Selon la ministre, la procédure devrait être très simple. Les données sur les contrevenants seront transférées au département du ministère de l'Intérieur pour l'enregistrement de la population et ils ne seront pas autorisés à quitter le pays lors du contrôle des passeport. C'est parfaitement acceptable. Si vous voyagez à l'étranger et violez les ordres du gouvernement, vous devrez payer pour cela, expliquer Ayelet Shaked. Elle a déclaré d'ailleurs qu'une mesure aussi sévère serait particulièrement pertinente pendant les vacances scolaires, lorsque les familles voyagent à l'étranger avec des enfants non vaccinés. Ils reviennent et infectent leurs amis. Une telle démarche restreint bien sûr considérablement la liberté de mouvement et il est peu probable qu'elle reçoive l'approbation d'un conseiller juridique du gouvernement. Il ne fait aucun doute que les citoyens et les organisations de défense des droits humains déposeront une requête auprès du Bagatz, la Cour suprême, qui a déjà prouvé l'année dernière qu'elle veille au respect des droits humains fondamentaux, dont le droit de circuler. Ainsi, en mars dernier, les juges ont ordonné à l'État d'Israël d'abolir toutes les restrictions quantitatives à la sortie et à l'entrée des citoyens en Israël. Ils ont alors décidé que la restriction d'entrée dans le pays de 3000 citoyens ainsi que la restriction de sortie n'était pas légale malgré les tentatives de l'État de justifier ces mesures par une menace épidémiologique. Ces restrictions portent atteinte aux droits constitutionnels même des citoyens d'entrer et de sortir de leur pays ainsi qu'à d'autres droits qui font partie intégrant de la vie dans une société démocratique, a déclaré le verdict. Giora Feinman à la clarinette avec On Shabbat Day. Se tient actuellement une exposition virtuelle à Yad Vashem sur les 80 ans de l'opération Barbarossa. De quoi s'agit-il? Eh bien, le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie et les forces de l'Axe lancent une attaque surprise contre l'Union soviétique. Cette opération, connue sous le nom de Code Barbarossa, va marquer un tournant dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale et en particulier pour le sort des Juifs dans la Shoah. Commence alors l'extermination de masse de la population juive. Sur le front soviétique, les forces allemandes sont accompagnées de 4 unités opérationnelles, les fameux Einsatz Gruppen, avec pour fonction principale le meurtre systématique des Juifs. Des militants communistes et des partisans seront également assassinés. Ces unités mobiles se déplacent d'un endroit à l'autre, rassemblent leurs victimes au bord de fosses ou de ravins, puis leur ordonnent de se déshabiller avant de les tuer à bout portant. Environ 1,5 million de Juifs ont ainsi péri sous les balles de ces unités opérationnelles et leurs partenaires, unités SS, soldats de la Wehrmacht, bataillons de police allemands, mais aussi milices locales. Une exposition Yad Vashem France retrace les histoires de 4 familles juives à la suite de l'opération Barbarossa, la famille Eschweg de Francfort, la famille Singer de Vilna, la famille Sabedzinski de Riga, les familles London et Ashkenazi de Kiev. Elle revient sur leur parcours personnel en Lettonie, Lituanie, Pologne orientale, Biélorussie, Ukraine. Grâce au matériel, les archives et collections de Yad Vashem, lettres personnelles, œuvres d'art, photographies, documents, témoignages, audio, feuilles de témoignages et autres, nous pouvons découvrir les noms et les visages d'une poignée d'hommes, femmes, enfants derrière le nombre immense et insondable de victimes assassinées. Rares sont ceux qui ont survécu à ces vagues de meurtres de masse. Certains descendants ont fait don des effets personnels de leurs proches à Yad Vashem, et cela pour la postérité. Je ne sais qu'une chose, il se passe quelque chose de terrible, quelque chose d'affreux, d'inconcevable, d'incompréhensible, quelque chose d'impensable et d'inexplicable. Tout le monde dit qu'on assassine les Juifs. Ils seraient tous assassinés sans discernement, les hommes, les femmes, les enfants. Une jeune fille russe a rampé avec son amie sous la clôture du cimetière. Elle a vu des personnes nues emmenées vers Babi Yar et entendu des tirs de mitrailleuses. De telles rumeurs et histoires se propagent. Elles sont trop monstrueuses pour y croire, mais nous devons y croire, car tuer des Juifs par balle est un fait qui commence à nous rendre fous. Il est impossible de vivre en sachant cela. J'écris, mais mes cheveux se dressent. Ceci est un extrait du journal de Irina Korouchonova. C'était à Kiev en septembre-octobre 1900.